contretemps. Une émission de Canal Academy,
Priscille Lafitte
et ses invités.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce Temps contre Temps. Notre invité aujourd'hui, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Michel Albert. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Albert, vous êtes entré à l'Institut il y a un peu plus de 10 ans.
Oui.
Et vous avez été ensuite nommé président de l'Académie des sciences morales.
Non, pas nommé, élu.
Élu, pardon. Et depuis le début de l'année, vous en êtes le secrétaire perpétuel.
Également élu,
permettez-moi de vous en féliciter. Donc ces nouvelles responsabilités viennent s'ajouter à celles qui vous occupent déjà comme président d'honneur des Assurances Générales de France, les AGF. Revenons un peu sur votre parcours, Michel Albert. Vous avez commencé par une carrière dans la haute fonction publique, à la sortie d'un cursus Sciences Po LENA. Vous avez d'abord intégré le corps des inspecteurs des finances. Vous avez connu de très près le comité RUF en 1959. Vous en avez été le secrétaire général.
RUF Armand, pardon. N'oublions pas Louis Armand, grand homme.
Et plus tard, vous avez été nommé commissaire général au plan. C'était sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing.
Exact.
Vous avez donc connu cette époque, on peut dire, faste, où l'État structurait l'économie, mais pas seulement. Vous avez aussi travaillé dans la presse, à la tête du groupe L'Express. Vous avez aussi vécu le changement de statut aux AGF, qui ont été privatisés en 1996, il y a 8 ans.
Non, ça je ne l'ai pas vécu, car j'ai quitté la présidence des AGF au 1er janvier 1994 pour entrer au Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Et pendant 9 ans, je me suis occupé de l'euro à la Banque de France.
Mais vous en êtes toujours président d'honneur.
Ah oui, bien sûr.
Parcours très varié, par lequel vous avez développé une vision très large de l'économie et de ses évolutions. Alors, pour en parler avec nous, l'émission Temps contre Temps propose la rencontre de 2 générations pour confronter les expériences, les points de vue, dans un rapport mutuel. Donc, j'ai à mes côtés 2 jeunes personnes, Patrick Comois et Claire Bueno. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Donc, commençons par vous, Patrick. Vous avez d'abord décroché le diplôme d'HEC, l'école de commerce à Jouy-en-Josas. Mais le secteur privé ne vous attirait moins, que le service public. C'est pourquoi vous avez cumulé avec des études à Sciences Po et depuis, vous avez intégré la fonction publique. Vous y êtes arrivé à vos fins au ministère des Affaires étrangères. Vous, Claire, vous avez fait le chemin inverse puisque vous avez commencé par Sciences Po. Vous avez décidé après coup de faire HEC, puis finalement, vous êtes peut-être revenu sur votre décision en rentrant au service public et pour l'instant, vous êtes contractuel dans une grande institution internationale. Qu'est-ce qui vous attire tant dans le service public, Claire ?
Alors, je crois que personnellement, j'ai toujours eu un intérêt pour les politiques publiques et pour leur mise en œuvre. Et pour ma part, je trouve vraiment que la finalité d'intérêt général donne une dimension plus vaste et beaucoup plus intéressante au travail. Si je prends un exemple concret, parce que je travaille actuellement sur des problématiques fiscales, j'ai travaillé en cabinet d'avocat avec comme objectif en fait l'optimisation fiscale. Et aujourd'hui, je travaille en fiscalité à l'OCDE, mais avec un but beaucoup plus vaste et peut-être un peu plus noble, si j'ose dire, qui est la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Et c'est ça, je pense, qui me motive davantage.
Et vous, Patrick ?
Je souscris assez à ce que vient de dire Claire. Je crois que c'était simplement une question de vocation. Je concevais mon dessin professionnel comme ça. Alors, je suis assez satisfait de la manière dont ça se passe pour l'instant. Je ne suis pas déçu du tout effectivement de cette expérience du service de l'État et de la recherche, de l'intérêt général, oui.
Donc tous les deux, vous avez une série de questions à soumettre à notre invité, Michel
Albert.
Oui,
mais est-ce que vous permettez d'abord que je prenne la parole pour vous dire que je suis enchanté du choix que vous avez fait. Vous m'avez mis interlocuteurs qui m'intéressent tout à fait par ce qu'ils viennent de dire. C'est pas sans porter. Ils l'ont dit spontanément comme ça, mais c'est pas sans porter. Vous vous rendez compte? Ils viennent de dire tous les deux qu'ils s'intéressent plus dans la vie. Ils démarrent dans la vie et qu'ils s'intéressent plus à l'intérêt général, à l'intérêt de tout le monde qu'à leur propre intérêt à eux. C'est un peu ça, n'est-ce pas? Au moins dans l'ordre monétaire et financier, du point de vue de l'intérêt intellectuel, c'est autre chose. Vous venez bien tous les deux de nous dire que si vous êtes l'une à l'OCDE et l'autre au ministère des Affaires étrangères, c'est parce que vous avez un goût de rendre service au public. Vous avez Par conséquent, vous appartenez un peu dans votre nouvelle génération à ceux qui décident, au moins pendant quelques années, par exemple, de travailler pour des ONG. Vous appartenez un peu à cette catégorie-là. Bon, mais écoutez, merci de m'avoir fait ce choix. Je suis ravi de les rencontrer ce soir tous les deux.
Je vous en prie, je pense qu'eux aussi, deux sont ravis de vous rencontrer. Donc, ils ont une série de questions à vous poser. D'abord, peut-être sur votre parcours, Patrick.
Oui, alors, effectivement, vous avez ce parcours à la fois de grand commis de l'État et puis d'expérience dans la direction d'une entreprise, même de plusieurs entreprises. La perception que j'ai, c'est que à l'époque où vous avez eu cette carrière, il y avait une vraie communauté de pensée ou une vraie culture commune, parce que beaucoup de gens avaient fait le même cursus, parce qu'on pouvait aller de l'un à l'autre, et qu'il y avait une culture commune aux gens qui travaillaient dans l'entreprise et aux gens qui travaillaient comme fonctionnaires ou comme fonctionnaires en tout cas. Et l'impression, c'est que cette culture commune n'existe plus ou disparaît. En tout cas, il y a chaque secteur, on pourrait dire, vit dans son coin et a ses propres idées, c'est sa propre manière de fonctionner ou en tout cas ses propres... c'est mis bien à distance de l'autre. Est-ce que vous avez aussi cette impression ?
Oui, je pense que quand vous dites culture commune, ce n'est pas tout à fait exact. Dans ma génération, on considérait que, d'une manière générale, les grandes écoles étaient supérieures. C'est pas... Or, la plupart des grandes écoles préparent au service public, qu'il s'agisse de l'école normale supérieure, qu'il s'agisse de Polytechnique ou de l'ENA, ça vous prépare principalement à des métiers de fonction publique. Les relations, les passages, puisque le passage, je crois, est l'un de nos thèmes ce soir, les passages étaient dans un seul sens, dans le sens de l'administration, lorsqu'on avait bien réussi dans l'administration, vers le secteur public. Alors on passait 10 ou 15 ans de sa vie à gagner peu d'argent et à travailler pour des causes d'intérêt général, n'est-ce pas ? Et puis après,
on allait...
Pantouflet, voilà. Les pantouflets, c'est le secteur public traditionnel, le secteur privé traditionnellement étant considéré comme une pantoufle, le lieu où on n'est pas menacé, où on est tranquille, où on est bien au chaud.
Surtout, on gagne bien sa vie.
Et on gagne bien sa vie. Il y a beaucoup de changements dans ce domaine.
Oui.
Mais si ça ne se produit plus, le pantouflage, ou peut-être un peu moins. Est-ce que y a pas pour autant maintenant il y a pas vraiment de mouvement, on peut pas vraiment voir de mouvement dans l'autre sens, il y a pas tellement de gens qui ayant travaillé dans le privé se découvrent sur le tard une vocation de fonctionnaire ou...
Il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez eu l'exemple remarquable de Francis Maire, notre précédent ministre des Finances. Ah, il faut quand même que les auditeurs sachent que Francis Maire était le patron d'Arcelor. Premier sidérurgiste mondial. Il faut qu'on sache que pendant une génération, moi j'ai vécu ça au plan autrefois, la France était consternée par sa politique sidérurgique, que plus on finançait l'acier et plus on perdait sur les marchés internationaux. Et puis ça s'est retourné pour bien des raisons. Et Francis Maire a été l'un des artisans de ce grand retournement qui a fait que l'entreprise qu'il dirigeait, Arcelor, était la première mondiale.
Mais il a fait un basculement en politique, pas dans la fonction publique.
Ah oui, écoutez, je vous dirais que moi, j'ai rencontré Francis Maire dans un institut d'études qui relevait du Commissariat Général du Plan et dont vous avez entendu parler à l'OCDE, puisque c'est le CEPI, le Centre d'études et de prospective économique, n'est-ce pas, international. Bon, eh bien, c'est typiquement une activité de service public, et gratuitement, Francis Maire en était devenu président à ma suite, d'ailleurs.
Claire ?
Et alors, justement, sur cette question du passage et des passerelles entre le public et le privé, j'aimerais aborder un aspect peut-être un peu plus concret, l'aspect du recrutement qui va intéresser les jeunes professionnels comme nous. Parce que moi, si je confronte mon expérience personnelle, je me rends compte que mon CV en tant que jeune diplômé d'école de commerce intéresse les institutions publiques, mais qu'il y a assez peu de voies de recrutement hors concours. Et je me demande, en fait, si c'est pas un peu un paradoxe d'un État qui veut se réformer, et si justement la fonction publique n'aurait pas intérêt à s'ouvrir davantage à des recrutements hors concours pour des jeunes ayant des formations de manager.
Oui, Patrick a dit tout à l'heure qu'il était contractuel.
Ah non, non, je, non, non, Patrick, moi j'ai passé un concours. J'ai fini par avoir un concours.
Ah, j'avais compris que vous étiez...
Je suis contractuel.
Vous, à l'OCDE, vous êtes contractuel, oui. C'est cela, oui. Bon, et vous ne parlez pas en ce moment de l'OCDE, vous êtes en train de parler de l'administration française.
Exactement, oui.
Puisque à l'OCDE... Oui, alors, en effet, nous avons en France un système de recrutement des fonctionnaires qui est essentiellement par concours et par concours de caractère administratif décidé par les administrations elles-mêmes. Je suis persuadé que c'est une chose qui évoluera. Mais en effet, ça fait partie de notre héritage et un peu, si vous voulez, des préjugés français qui veulent que il faut que chaque individu soit classé, noté et que d'ailleurs l'essentiel lorsqu'on est un très bon élève consiste à sortir d'une grande école. Et quand je suis sorti moi de l'ENA, l'un de mes camarades qui était dans un grand corps a dit bon ben maintenant je suis en retraite. C'était un peu par dérisoire, en réalité par dérision. Mais enfin, il est vrai que une fois qu'on a réussi le concours, ça vous positionne et ça vous positionne d'une manière durable, très durable.
Oui, mais Claire, vous vivez hein, ce...
Ah oui, ah non, cette situation, c'est quelque chose que je vis, puisque actuellement, en fait, je présente mon CV pour des postes de contractuels dans l'administration, et la voie est vraiment étroite, excepté peut-être dans le cadre des collectivités locales, qui manquent de cadres dans des fonctions financières et budgétaires.
Oh, ça, c'est sûr, oui.
Mais pour le reste, c'est assez étroit, et ça me semble paradoxal, notamment quand on voit l'analyse qui a été faite par la commission sur la réforme de l'ENA, qui est dirigé par monsieur Yves Thibault de Silguy l'an dernier,
oui.
Qui justement pointait du doigt cette exigence pour l'avenir de manager public et non plus, disons, de haut fonctionnaire au sens plus traditionnel.
Mais écoutez, si vous tournez la tête, vous allez voir le Louvre en face de nous, parce qu'il faut que les auditeurs sachent que nous sommes au quatrième étage de l'immeuble du palais de l'Institut, que nous avons une vue sur la Seine au premier plan et sur le Louvre au deuxième plan. Eh bien, au musée du Louvre, je peux vous dire que la jeune femme qui est directeur adjoint de l'ensemble des affaires économiques et financières vient de sortir d'une école de commerce comme vous.
Je vois. Voilà. Nous allons tout de suite marquer une petite pause, une petite respiration, puis nous reprendrons ce débat dans quelques minutes. À tout de suite.
Canal Académie.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Priscille Lafitte.
Nous sommes toujours en compagnie de Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, président d'honneur des AGF, ancien commissaire au plan, pour être rapide et non pas exhaustive. Avec nous aussi Claire Bueno et Patrick Comois, tous deux jeunes diplômés de Sciences Po et d'HEC, récemment entrés dans la vie active. Mais donc, venons-en à des questions de fond. Le politique peut-il encore avoir une influence sur le cours de l'économie? C'est une question que vous vous posez, Patrick.
Oui, effectivement, il y a toute une série de rapports. Il y a eu l'an dernier un rapport qui parlait de néo-colbertisme européen. Il va y avoir ce rapport BEFA qui va sortir dans pas trop longtemps, et dont le président de la République a parlé lors de ses vœux aux forces vives, je pense, qui finalement reprennent cette idée de l'impulsion de l'État, que l'État peut assigner une grande direction économique est mieux placé pour trouver les priorités par exemple en matière d'innovation, de recherche ou alors même de secteurs d'activité à privilégier. C'était après tout l'idée du plan, mais pourtant on est sorti de la planification à la française depuis 15 ans. Est-ce que vous pensez que il y a à nouveau une place pour pour ces impulsions de l'État, pour que l'État assigne ces grandes lignes de direction?
Oui, après la guerre, pendant une génération, ça a duré jusqu'au milieu des années 70, nous avons vécu dans une économie dirigée. Le symbole de cette économie dirigée, c'était que l'État fixait les prix. Vous n'avez pas connu ça, mais moi, quand je suis entré au commissariat général du plan, le premier problème tous les matins pour le premier ministre Raymond Barre, c'était le prix du beefsteak et le prix de la baguette, n'est-ce pas? Bon, voilà, c'était le gouvernement qui fixait ça, et qui fixait des tas de prix, et qui intervenait partout avec des crédits privilégiés. L'argent était hors marché. Il faut bien comprendre que à l'époque, l'argent était hors marché et que les taux auxquels on empruntait étaient fixés en fonction de préférences exprimées par les pouvoirs publics au nom de leur vision du développement économique. Ça a d'ailleurs bien marché pendant une vingtaine d'années, jusqu'au premier choc pétrolier en 73-74. Et puis, il est apparu clairement que la complexité croissante des économies d'une part, d'autre part leur interpénétration faisait que il fallait développer la compétitivité de toutes les entités économiques et pour cela les plonger dans un bain concurrentiel. Nous sommes entrés dans un bain concurrentiel. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'Union européenne, c'est avant tout, ou la Communauté économique européenne, c'est avant tout un marché commun, c'est-à-dire un lieu sur lequel s'exerce la concurrence. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui une tendance universelle à, encore aujourd'hui, à faire en sorte que les vieux dirigismes font place à un effacement de l'État et à une mise en force, en pleine force du marché et de la concurrence. Pour vous qui travaillez sur l'Asie, vous devez voir le cas chinois, il est particulièrement frappant à cet égard, même puisque ce pays est toujours resté communiste, n'est-ce pas? Alors voilà les deux grandes phases. Mais à l'intérieur de la deuxième phase où nous sommes aujourd'hui, on se rend compte que l'État peut indirectement jouer un rôle efficace du point de vue du développement économique, mais c'est presque toujours indirect. Il peut le faire essentiellement par sa politique de recherche et de développement. Et à cet égard, nous devons savoir que la France, comme les autres pays européens, est un pays mal gouverné depuis longtemps, qui se gouverne mal, je dis mal gouverné, qui se gouverne mal depuis longtemps, puisque nous avons perdu nos capacités relatives, nos capacités concurrentielles en matière de recherche et de développement d'une manière dramatique. La révolution informatique, c'est pas nous, c'est les Américains. Internet, c'est pas nous, c'est les Américains, n'est-ce pas? Et maintenant, on voit bien l'émergence fantastique des Chinois et des Indiens, n'est-ce pas, dans ce domaine. Bon, alors donc, une bonne politique généreuse et compétitive de la part de l'État en matière de recherche et développement, c'est efficace et c'est l'un des aspects de ce que BEFA réclame. D'autre part, l'État peut jouer un rôle extrêmement important par la qualité de son service public, de ses services publics en général, et du service public de l'enseignement en particulier. Sous cet angle, le fait que nous devons, je suis vieux, mais ça m'a rajeuni d'aborder ces problèmes parce que je retrouve l'indignation de ma jeunesse devant le fait que en France, aujourd'hui, je vais vous donner deux chiffres, trois chiffres. En France, aujourd'hui, il y a une séparation complète de l'université et de la recherche, de sorte que d'un côté, vous avez de grands établissements de recherche où on est des fonctionnaires jusqu'à la fin de sa carrière, et on est des gens qui cherchent mais qui ne trouvent pas, ou qui, peu importe, je cherche des trouveurs, je trouve des chercheurs, n'est-ce pas, dans ces organismes-là. Et puis, d'autre part, les universités qui rabâchent, qui ne font pas de recherche, qui ne sont pas créatives, alors que c'est par l'association, l'interpénétration de la recherche, de l'enseignement universitaire et de l'entreprise concurrentielle que se fait le développement économique aujourd'hui. Alors, Cela, un certain nombre de pays l'ont bien compris. Vous n'avez pas que les États-Unis. Vous avez, par exemple, les pays scandinaves sont tout à fait exemplaires dans ce domaine. Et le rapport BEFA sur lequel nous revenons, mais il faudrait aussi qu'on parle du rapport Kansu, commence à montrer une prise de conscience dans ce domaine. Je vous avais promis 3 chiffres, les voilà. Quel est le budget des universités en France? Ce budget des universités, il est de l'ordre de 15 milliards d'euros. Quel est le budget de la recherche publique en France? Hélas, c'est pareil des universités, comme je l'ai dit. Il est aussi d'un ordre de grandeur de 15 milliards d'euros. Ça, c'est la dépense totale. C'est ce que l'État, c'est ce que la nation, l'ensemble des Français, consacre à la recherche et aux universités. Et maintenant, 15 plus 15, ça fait 30 milliards. Quel est le déficit de l'assurance maladie cette année? Il est de 30 milliards. Le déficit, je ne vous parle pas du budget de l'assurance, il est de 30 milliards. Ce qui prouve que nous faisons des choix qui sont désastreux pour l'avenir. Nous payons les frais médicaux et pharmaceutiques à tout le monde, y compris des gens dans mon genre, à mon âge, et qui ne sont pas particulièrement malheureux, il faut l'avouer. Et nous ne trouvons pas l'argent qui nous permet de conquérir l'avenir et de faire que les futures générations puissent appartenir au front de taille du progrès économique et social.
Claire ?
Moi, j'avais envie de revenir sur un sujet qui, à mon sens, cristallise assez, disons, la tension, voire la complémentarité, à l'inverse, entre la politique et le tissu des entreprises, à savoir la question du développement durable.
Parce qu'on a très vu, bien.
Parce qu'on voit justement que les entreprises intègrent de plus en plus un objectif de développement durable dans leur fonctionnement, dans leurs enjeux. Et justement, je me demandais s'il n'y avait pas un petit peu un paradoxe, puisque il me semble que les questions de développement durable, les questions environnementales, normalement, sont davantage vues comme des questions d'intérêt général et sont plus du ressort de l'État. Qu'en pensez-vous ?
Passionnant, votre question.
Merci.
Oui. Alors, en effet, a priori, il y a bien une contradiction entre l'intérêt privé à court terme, l'immédiateté, n'est-ce pas, de la société dans laquelle nous sommes d'un point de vue économique, et le développement durable. Et on a toute une littérature qui vous montre que beaucoup, de plus en plus, d'entreprises ont tendance à travailler pour le court terme. On le voit par exemple aujourd'hui au fait que beaucoup d'entre elles, au lieu d'investir leur profit dans des projets de développement, consacrent une partie croissante de leurs profits à racheter leurs propres actions, ce qui réduit leur capital et ce qui les oblige à s'endetter davantage, ce qui est absurde. Bon, comment se fait-il, par conséquent, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, malgré tout, travaillent pour le développement durable? Eh bien, je vous dirais, c'est parce que est en train de naître avec votre génération, par 1000 petits cheminements peu visibles, une nouvelle conscience morale qui fait que les problèmes d'intérêt généraux, on le voit non seulement à cause des tsunamis aujourd'hui, les problèmes d'intérêt général et de long terme deviennent des problèmes pour tout le monde. Et que si une entreprise veut recruter les meilleurs tels que vous deux dans son état-major, il lui faut montrer que non seulement elle fait des profits, mais qu'elle pollue peu, qu'elle pollue de moins en moins, qu'elle s'occupe de... qu'elle est socialement responsable, qu'elle traite bien son personnel, qu'elle est attentive aux conditions dans lesquelles sont produits en Chine les sous-produits qu'elle va utiliser dans ses magasins, etc. Il y a une nouvelle conscience morale dans ce domaine et je voudrais quand même vous faire 2 recommandations de livres. Le premier, c'est un livre publié par l'Académie des sciences morales et politiques, ça ne vous étonnera pas, en 2002, sous la présidence de Marcel Boiteux, ancien président de l'EDF, qui est là en plus l'un des grands mathématiciens français. Il a consacré lui toute son année de l'Académie des sciences morales sur le développement durable. Et d'autre part, il se trouve que j'ai un fils qui vient d'écrire un livre intitulé « Le manager durable ». Parce que le manager, de plus en plus, il est jetable, comme vous savez. Et alors, il a réfléchi sur les conditions dans lesquelles le manager pouvait être un manager durable. Je vous recommande mon fils Éric Albert pour son livre. Il est médecin psychiatre.
Pour conclure cette émission, qui est courte, une demi-heure, on voit que c'est vite passé. Michel Albert, vous avez peut-être une question à poser à vos deux invités ?
Oui, moi j'ai une question à poser, c'est de savoir quels sont, si vous aviez l'un et l'autre à me dire, quels sont les modèles de carrière qui vous inspirent, qui vous voudriez faire quel genre de carrière ?
Claire ?
Mais donnez-moi un exemple, en choisissant un exemple de nom de personne plutôt que de faire une dissertation. Y a-t-il quelqu'un dont la carrière vous attire particulièrement ?
Je crois que récemment, j'étais assez impressionnée par le travail de Monsieur Valéry Giscard d'Estaing à la Convention pour l'avenir de l'Europe.
Oui.
Et effectivement, c'est le genre de carrière assez variée qui passe par l'administratif, le politique et je dirais avec toujours une vision toujours en mouvement et sur des sujets d'avenir, ça serait, disons, le genre de carrière qui m'inspirait assez.
Très bien, puis sans compter qu'il est membre de l'Académie française, nous sommes ici à l'Institut de France, donc dans le monde des académies, vous êtes habile, vous.
T'as fait comment ?
Ah, il faudrait que je réponde quelque chose comme Mazarin ou...
Non, un contemporain. Dans le contemporain, bien sûr, oui. Mazarin... Ben oui, parce que vous aussi, vous êtes habile, puisque c'est le palais Mazarin.
Oui. Parmi nos contemporains, non, je suis très impressionné, j'ai été encore récemment d'ailleurs très impressionné par ce qu'incarne encore à certains égards Nelson Mandela. À la fois parce qu'il a été un grand résistant, il a été emprisonné longtemps.
Pendant des dizaines d'années.
Il sort de prison. Il prend le pouvoir finalement,
oui.
Et il accepte de le partager. Il fait des gestes de paix excessivement forts, d'apaisement.
Oui.
Il jette les bases d'une vraie démocratie, pluraliste, ouverte, moderne, qui a beaucoup de leçons à donner en Afrique, même au-delà, sur les droits des femmes, sur des questions de ce genre-là. En tout cas, dans la tentative, bien sûr, comme effort. Récemment, il a encore eu cette espèce de courage de parler de la mort de son fils qui est mort du sida, et de dire voilà, ça doit être quelque chose qui dépasse ma douleur personnelle et qui doit être un engagement collectif. Donc ça, c'est assez ça donne à réfléchir, quoi. Quelqu'un qui est aussi fidèle à des principes tout au long de sa vie et qui les met en action pour le bien, en fait, pour le bien de son peuple, c'est un vrai modèle au sens fort, enfin vraiment quelque chose d'admirable, quoi.
Merci.
Eh bien écoutez, Priscille, si vous permettez, je vous ai dit au début qu'ils étaient pas mal choisis, ces deux-là, je confirme et signe.
Merci Monsieur le Secrétaire Perpétuel, merci Patrick Comois, merci Claire Benoît, merci d'être venu, d'avoir participé à cette émission, et je vous dis à tous à la semaine prochaine pour un autre Temps contre Temps.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.